pensez, s'il vous plaît, pensez à la dernière fois que vous êtes parti en vacances dans un pays étranger. Est-ce que vous avez payé vos impôts là-bas? Bien sûr que non. Est-ce que vous avez voté dans les présidentielles dans ce pays-là? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que vous n'étiez qu'un vacancier. Vous n'étiez qu'un visiteur, un résident temporaire. Vous êtes citoyen français, résident permanent en France. Vous attendiez avec hâte le fait de revenir en France et payer vos impôts et voter dans les présidentielles. Quand nous sommes dans un pays étranger aussi, c'est facile de nous isoler, de rester entre Français ou entre étrangers. Parce que vous n'êtes qu'un visiteur, vous n'êtes qu'un résident temporaire. Et le chrétien? Le chrétien à Paris en 2019? Nous avons vu ces dernières semaines que le chrétien est comme un étranger élu. Il fait partie du peuple de Dieu, il est citoyen du ciel. La semaine dernière, nous avons lu que les chrétiens forment un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Alors, en tant que citoyen du peuple de Dieu, étranger élu, comment est-ce que le chrétien vit en société? Quel est son rapport au gouvernement? S'il y a des injustices qui arrivent, que fait-il? Dans le texte d'un Pierre de cette semaine, nous allons voir le défi de vivre en société en suivant l'exemple de notre Sauveur souffrant. Et si vous voulez un titre pour aujourd'hui, vivez en société en suivant votre Sauveur souffrant. Vivez en société en suivant votre Sauveur souffrant. Je vous invite à prendre une Bible et à l'ouvrir à la page 800. 800, c'est 1 Pierre 2. Je vais lire à partir du verset 11. La page 800 dans les Bibles blanches, 1 Pierre 2, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et les sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Je vais prier avant de dire plus. Notre bon Père Céleste, nous te demandons de nous montrer plus de notre péché. Nous te demandons de nous montrer plus de la gloire de Jésus-Christ. Et aide-nous à savoir comment vivre aujourd'hui en société, au travail, à la maison, au lycée, à la fac, pour ta gloire. Amen. Amen. Il y a un petit plan à l'intérieur du bulletin des chants. J'espère que ça pourrait vous aider à suivre. Et notre premier titre à partir des versets 11 et 12, « Abstenez-vous de vos désirs anciens et conduisez-vous bien. » Comment est-ce que les chrétiens, membres du peuple de Dieu et donc résidents temporaires et étrangers sur terre, devraient vivre? Pierre dit deux choses. Il doit s'abstenir de ses désirs anciens et il doit avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants. Selon le verset 11, il y a une guerre chez les chrétiens, la nature propre du chrétien, c'est-à-dire la façon de vivre, les désirs qui étaient là avant de devenir chrétien, ces anciens désirs, cette ancienne façon de vivre traînent toujours. Et les désirs de cette ancienne nature contre Dieu essayent de reprendre le dessus. Mais ces désirs ne font plus partie de la nouvelle identité du chrétien. Et donc Pierre dit de façon négative, abstenez-vous de vos désirs anciens, et de façon positive, ayez une bonne conduite au milieu de non-croyants. Et donc pas d'isolation pour les chrétiens, mais une vie de bonne conduite au milieu des non-croyants. C'est l'histoire du mauvais élève qui devient professeur. Quand il était élève, il s'amusait à lancer des boules de papier à ses profs. Mais son identité a changé. En tant que prof, il se peut qu'il ait toujours envie de lancer des boules de papier, mais il sait que maintenant il est prof. Il arrête de faire ça afin de faire équipe avec ses collègues. Et Pierre dit aux chrétiens, abstenez-vous de vos désirs anciens et conduisez-vous bien. Alors, dans un instant, dans notre texte, Pierre va appliquer cela au domaine de la vie en société et de la vie au travail. Et nous allons réfléchir à des exemples concrets. Mais quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences si les chrétiens s'abstiennent de leurs désirs anciens, s'ils vivent une bonne conduite? Lisez le verset 12 avec moi, s'il vous plaît. Le verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir. » Et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. Alors, quelles seront les conséquences si les chrétiens s'abstiennent de leurs anciens désirs et ont une bonne conduite? Première réaction, la calomnie. La calomnie, comme si vous faisiez le mal. Et peut-être vous avez vécu ça au travail. Deuxième réaction. Ensuite, les non-chrétiens remarquent la belle manière d'agir. La lumière se voit. La lumière dans la nuit se voit. Troisième réaction, c'est de rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra, c'est-à-dire le jour où Dieu va revenir pour juger. Alors peut-être ça correspond à votre témoignage. À une époque, vous vous êtes moqué des chrétiens, mais vous avez quand même reconnu la belle manière d'agir. Et cela vous a motivé à vous renseigner, à découvrir plus sur la foi chrétienne qui vous a convaincu. Mais il me semble que la conversion de non-croyants qui regardent ne sera pas toujours l'aboutissement final. Il est possible dans ce texte que le jour où Dieu intervient, ces personnes glorifient Dieu, non pas avec amour et avec joie, mais avec regret, de peur. Une acceptation, une compréhension trop tardive de la manière de vivre des chrétiens. Mais Dieu sera glorifié. Et je trouve ça motivant. Nous pouvons glorifier Dieu aujourd'hui dans notre façon de vivre. Nous pouvons glorifier Dieu par notre bonne conduite. Et ça pourrait être une bonne prière. Quand vous partez au travail, ou quand vous rentrez à la maison, ou quand vous sortez en soirée, Dieu aide-moi à avoir une bonne conduite afin que d'autres le remarquent et que tu sois glorifié. Pierre nous dit, abstenez-vous de vos désirs anciens et conduisez-vous bien. Dans la suite, Pierre nous donne quatre domaines spécifiques. Le verset 13, en société. Verset 18, il parle aux serviteurs qui vivent des situations injustes. Chapitre 3, le verset 1, il parle aux femmes et puis aux maris. Et puis, le verset 8 du chapitre 3, il parle de la vie à l'Église. Alors, revenez la semaine prochaine pour réfléchir à la vie du mariage, la semaine d'après pour la vie dans l'Église. Aujourd'hui, parlons de notre vie en société. Notre vie en société, y compris des situations d'injustice. Parce que Pierre dit, abstenez-vous de vos désirs anciens et conduisez-vous bien en société. Le verset 13. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Alors, quels pourraient être nos désirs anciens en société? C'est de nous écarter de ce que les autorités nous demandent. C'est de penser que nous sommes indépendant de ce que les autorités nous demandent. Mais quelle est la bonne conduite dans la société? C'est de nous soumettre aux autres, de reconnaître l'autorité donnée à certains pour régner et pour juger. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Si vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie, c'est écrit ici, en noir et en blanc, au verset 15. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. La volonté de Dieu, faire du bien, afin que les non-croyants qui nous entourent, afin que les maires, les policiers, les juges, les ministres, les profs, les présidents puissent dire « Ok, je ne suis pas d'accord avec ce que ces chrétiens croient, mais je ne peux rien dire contre leur façon de vivre. » Car le chrétien est libre, verset 16, mais il est aussi serviteur de Dieu. Et Dieu nous appelle à nous soumettre aux autorités. La nouvelle identité du chrétien n'est pas une raison pour s'excuser de ses devoirs en société. Pire, la nouvelle carte d'identité du chrétien n'est pas une licence pour faire du mal. Non, non, c'est une raison pour faire du bien. Alors, imaginez, s'il vous plaît, que la boîte où vous travaillez se fait racheter. Votre chef, votre N plus 1, ne change pas. Mais le chef de votre chef change. Vous avez un nouveau N plus 2. Alors, que dit votre N plus 2 lors de votre premier entretien? Que dit le chef de votre chef pendant votre premier entretien avec lui, avec elle? Il dit, continuez à travailler pour votre chef. Vos obligations envers lui ne changent pas. Même dès aujourd'hui, j'accorde plus de valeur à votre façon de parler, votre façon de travailler, votre façon de respecter votre chef. Et de la même manière, Dieu nous dit, vous faites partie de mon peuple, c'est excellent. Maintenant, soumettez-vous aux autorités. Abstenez-vous de vos désirs anciens et conduisez-vous bien en société. Et donc, la personne qui était payée au noir avant qu'elle se convertisse cherche à régulariser sa situation afin d'obéir aux autorités. La personne qui avait l'habitude d'insulter les politiques sur Facebook arrête de faire ça afin de respecter les autres. Reconnaissons que si nous devons du respect aux autorités, selon le verset 17, c'est la crainte qui est due envers Dieu. C'est lui, Dieu, notre autorité ultime. C'est Dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Et Pierre le connaissait bien. Si vous lisez Acte 4, c'est après la vie et la mort et la résurrection de Jésus. Pierre et Jean sont interdits de parler de Jésus. Et ils répondent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Il y a l'autorité ultime qui est Dieu, mais il me semble qu'une telle situation est plutôt exceptionnelle, plutôt rare dans notre expérience. Nous avons le privilège de pouvoir nous soumettre aux autorités françaises. Mais ensuite, Pierre met la barre encore plus haute. Il nous dit de nous abstenir de nos désirs anciens, de nous conduire bien, même dans la souffrance injuste. Le verset 18. Serviteur, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. Pierre parle au serviteur, et pour le serviteur chrétien, son comportement n'est pas déterminé d'abord par celui du maître humain, mais par sa crainte de Dieu et l'exemple de Jésus. Le serviteur doit se soumettre à son maître, qu'il soit bon et doux, ou qu'il soit tordu, infligeant des souffrances injustes. Et ça nous choque. Est-ce que ça vous choque ce matin? On a raison d'être choqué. Dieu est juste. La souffrance injuste est injuste. Nous avons raison d'être attristés, écœurés par la souffrance injuste. Et lorsque ces créatures et ces enfants souffrent injustement, Dieu est le premier offensé et attristé. Mais au lieu de réagir en suivant nos anciens désirs, au lieu de réagir en négligeant ses responsabilités, au lieu de réagir en faisant son travail avec la haine ou de l'amertume, au lieu de réagir en cherchant la vengeance, Dieu dit que c'est une grâce d'endurer la souffrance alors que vous faites ce qui est bien. Abstenez-vous de vos désirs anciens et conduisez-vous bien, même dans la souffrance injuste. Et c'est un grand défi. C'est tellement facile d'être aigri dans sa carrière professionnelle quand il y a des injustices salariales. C'est tellement facile de critiquer son chef qui rend la vie difficile. C'est tellement facile de formuler un plan de vengeance pour faire descendre un collègue qui ne fait pas son travail. Comment est-ce possible de ne pas réagir? Comment est-ce possible de nous abstenir de nos désirs anciens et de nous conduire d'une bonne façon dans ces situations? C'est possible parce que nous suivons Jésus-Christ, notre Sauveur souffrant. Et donc, dernier titre, suivez Christ, votre Sauveur souffrant. Suivez Christ, votre Sauveur souffrant. Le verset 21. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors, comment est-ce possible de nous abstenir de nos désirs anciens, d'avoir une bonne conduite même dans la souffrance injuste, en suivant Jésus-Christ, notre Sauveur souffrant? D'abord, Jésus est mort pour nous. Avant d'être notre exemple, Jésus est notre substitut. Parce que avant de subir les injustices, chacun de nous, nous sommes coupables des injustices. Chacun de nous, avant de subir des injustices, nous sommes responsables pour les injustices. Des injustices contre le Dieu qui nous a créés et contre les autres, créés par Dieu. Et Jésus a pris la punition que je mérite pour ces injustices, pour ces péchés. Regardez le verset 24 avec moi. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Si nous avons fait confiance à Jésus, sa mort à la croix, il a porté nos péchés dans son corps, à la croix. Par sa mort, Jésus nous libère de la punition et la puissance du péché. Par sa mort, Jésus nous libère de la punition et de la puissance du péché. Et si le péché reste présent, si les désirs de la nature propre continuent à mener la guerre, grâce à Jésus, nous sommes libres pour nous abstenir de nos désirs anciens. Nous sommes libres pour vivre pour Dieu, pour la justice. Nous pouvons choisir de ne pas réagir avec la haine ou l'amertume ou la colère. Avant d'être notre exemple, Jésus est notre substitut. Et est-ce que c'est le cas pour vous? La semaine dernière, Samuel nous a posé la question, Christ est-il précieux pour vous? De la même façon, Christ est-il votre substitut? Mais Jésus est notre sauveur souffrant qui nous donne un exemple à suivre. Et ces versets reprennent Ésaïe 53, une lecture que Josias a déjà faite pour nous dans l'Ancien Testament. Et nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus, le serviteur, le sauveur souffrant. Jésus a souffert injustement. Il n'avait commis aucun péché. Il n'avait transgressé aucune loi. Dans sa bouche, il n'y avait aucun mensonge. Il n'avait fait aucun tort. Trois fois, le gouverneur romain, Pilate, a déclaré l'innocence de Jésus. Pourtant, Jésus s'est soumis aux autorités. Jésus s'est soumis aux autorités terrestres qui ont préféré sa mort. Jésus s'est soumis aussi au plan de secours de son bon Père céleste. Et insulté, Jésus n'a pas répondu avec les insultes. Maltraité, Jésus n'a pas fait de menaces. Il n'a pas cherché à se venger. Mais selon le verset 23, il se remettait à celui qui juge justement. C'est-à-dire, Jésus a supporté les souffrances injustes, sachant que Dieu le Père était en contrôle et rendrait justice. Et donc Pierre nous dit, abstenez de vos désirs anciens et conduisez-vous bien en société, même dans la souffrance injuste, en suivant Christ, votre sauveur souffrant. Et donc, quand nous sommes insultés, suivant Christ en ne pas multipliant les insultes, quand nous sommes maltraités, suivant Christ en ne pas forgeant un plan de vengeance, quand nous souffrons injustement, cherchant à faire confiance à notre Dieu, notre Père céleste. Je me souviens de quelques situations où, en tant que professeur en internat, les élèves se sont moqués de moi de façon organisée. Tristement, c'était le baptême que beaucoup de jeunes profs doivent subir. Mais c'était aussi un apprentissage pour moi à ne pas insulter les jeunes qui m'avaient insulté, à ne pas rassasier sans cesse dans ma tête comment j'allais répondre, comment j'allais me venger contre les chefs de bande. Et je suis sûr qu'il y a quelques personnes, il y a pas mal de gens qui ont vécu des situations tellement plus graves, plus tristes. Suivons à notre sauveur souffrant. Quelques mots de plus me semblent nécessaires. Depuis que Pierre a écrit sa lettre, le monde de travail, le code de travail a pas mal évolué. Nous avons des lois qui nous protègent contre l'harcèlement au travail, qui nous protègent contre le licenciement injuste, contre les abus, et c'est une bonne chose. Moi-même, en internat, j'ai pu faire appel aux profs plus expérimentés. Mais ces protections ne suppriment pas l'exhortation de Pierre de suivre notre Sauveur souffrant. Et donc, imaginez, s'il vous plaît, dimanche prochain, vous arrivez à l'église et quelqu'un vous partage une situation d'injustice qu'il vit au travail. Quelle sera votre première réaction? Lui dire d'aller voir les ressources humaines? Lui dire de changer d'emploi? Ou de chercher à les aider à suivre leur Sauveur souffrant? Allez voir les ressources humaines. Changer d'emploi. Ce sont des solutions sages au long terme. Mais est-ce qu'on pourrait commencer par dire ça doit être difficile de ne pas être aigri dans cette situation? Est-ce que vous arrivez à prier Dieu concernant ça? Est-ce qu'on pourrait dire ça doit être tentant de critiquer ta chef? Est-ce que tu arrives à tenir la langue? Est-ce qu'on pourrait dire j'ai jamais vécu de situation pareille, mais tu sais que Jésus, lui aussi, il a connu des situations horriblement injustes. Est-ce qu'on pourrait dire, je sais que je veux souvent chercher à me venger dans des situations pareilles. Est-ce que tu vois comment tu pourrais faire du bien dans cette situation-là? Mais avec ces exhortations, sachant que le chrétien est entre les mains de Dieu, le bon berger, le protecteur de notre âme. Est-ce que vous avez remarqué ces mots précieux à la fin du verset 27? Dieu est le berger. Il reste notre berger, celui qui nous accompagne au travail, à la fac, à la maison. Là, nous passons par des situations injustes. Et Dieu est celui qui protège notre âme. Et donc, abstenons-nous de nos désirs anciens. Conduisons-nous bien en société, même dans des situations d'injustice, en suivant notre Sauveur souffrant. Prions ensemble. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour notre Seigneur Jésus. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menace. Merci de ce qu'il a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pas pour la justice. Tu connais les situations d'injustice, de souffrance par laquelle nombreux ici passent. Aide-nous, s'il te plaît, à nous abstenir des désirs de notre nature propre et d'avoir une bonne conduite pour que tu sois glorifié. Aide-nous à suivre l'exemple de notre Sauveur souffrant. Et aide-nous à savoir comment aider les uns les autres dans ces situations. Et merci de ce que tu es le berger et le protecteur de notre âme. Amen. Amen.
Merci Keith. Nous arrivons à la fin de notre rencontre. Nous allons chanter un dernier cantique. On va demander au Seigneur de diriger, de sanctifier toute la vie de ses enfants. Je vous invite à vous lever pour chanter ce dernier cantique, s'il vous plaît. Seigneur.